se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
Jeudi 1er décembre,
l'info sur RMC.
Il est 7h sur RMC et RMC Story. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Mieux vaut ne pas tomber malade. Aujourd'hui, près de 70% de médecins généralistes en grève. Une première pour beaucoup. Vous entendrez Mokhtaria épuisée. Elle raconte sur RMC. École fermée, train à l'arrêt, téléphone coupé. Le gouvernement se prépare à des coupures d'électricité cet hiver. Et puis la France affrontera la Pologne en 8e ce dimanche. Défaite 1-0 face à la Tunisie hier. Une fin de match chaotique, vous le verrez.
Ça risque d'être compliqué de consulter aujourd'hui.
Près de 70% des médecins généralistes ferment leur cabinet ce matin. Grève inédite depuis 7 ans. Ça en dit long sur le trop-plein de la profession. Il y a la colère, la volonté d'être mieux rémunéré et la fatigue que nous raconte cette généraliste rencontrée par Vincent Chevalier près de Lyon pour RMC.
Depuis 17 ans, depuis qu'elle est médecin.
C'est la première fois que je me mets en grève dans le cadre de mon activité de médecin généraliste libéral.
Mais aujourd'hui et demain, le cabinet de Mokhtaria Ali Kadar restera fermé.
Si on en arrive là, c'est que vraiment les choses vont très mal.
Cette généraliste dénonce des conditions de travail devenues insupportables.
Une journée où au lieu de voir 30 personnes, on en voit plus de 40. Où on n'a pas mangé, où on n'est pas allé faire pipi. Et où on arrive le soir à 19h30 pour gérer la vie de famille. Où on est tellement épuisé que gérer la vie de famille, c'est compliqué.
Principale revendication du collectif Médecins pour Demain, dont elle est porte-parole, la revalorisation des consultations à 50 euros pour refinancer le secteur.
Il n'y a pas les moyens d'avoir des grands locaux, des bons équipements pour travailler et il n'y a pas des moyens d'embaucher du personnel.
Et surtout, ces conditions n'attirent pas les jeunes médecins.
Seulement 10% d'une promo chaque année s'installe ou se met en libéral parce que les conditions sont trop difficiles. Ils viennent dans les cabinets, ils voient nos conditions de travail, ils disent non, c'est pas pour moi. Ils vont aller faire d'autres activités.
Cette généraliste parle d'une grève de la dernière chance pour éviter une augmentation des déplacages, ces professionnels qui arrêtent d'exercer.
Pas de consultation, pas d'analyse non plus. Les laboratoires de nouveau en grève aujourd'hui. Pendant ce temps, le gouvernement se prépare au pire, à des coupures d'électricité cet hiver. 60% d'entre nous seraient concernés. Concrètement, on parle de coupures organisées. Si la production ne suit pas, pour éviter le blackout, un mode d'emploi a été envoyé au préfet. 2 heures de coupure maximum annoncées la veille, suffisant pour mettre à l'arrêt votre frigo, mais aussi le trafic des trains, l'éclairage public, les écoles et les lignes téléphoniques. Il serait alors impossible d'appeler les numéros d'urgence, ce qui affole la directrice générale d'Orange.
Si les délestages se multiplient, on ne sait pas en fait comment comportera le réseau et c'est un sujet sur lequel on continue de travailler. Mais je crains que nos concitoyens et les Français découvrent que les réseaux télécoms dépendent d'électricité. Donc c'est illusoire d'imaginer qu'en cas de délestage, on saura maintenir un service continu pour l'ensemble des Français, puisque les services mobiles, si dans une zone géographique ils sont éteints pendant 2 heures, il n'y aura pas d'accès au service des numéros d'urgence pendant un temps.
Christelle Heidemann auditionnée hier devant le Sénat.
Et justement, ne manquez pas, à 8h30 tout à l'heure, mon invité, c'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Je l'interrogerai très précisément sur ce scénario, le mode d'emploi en cas de délestage et de coupure d'électricité. Qui serait visé? Comment ça fonctionnerait? Quels services seraient coupés? Il est 7h03 sur RMC. La réforme des retraites, ça se précise, le bras de fer se durcit.
L'ultime cycle de discussion entre le gouvernement et les partenaires sociaux commence aujourd'hui, avant une présentation dans 15 jours. Au menu, l'âge de report légal à 64 ou 65 ans. Promesse très polémique d'Emmanuel Macron, Victor Johannin. On entre dans le dur.
C'est la question qui va enflammer les discussions. Y a-t-il besoin de faire travailler les Français plus longtemps pour donner de l'air au régime des retraites? Les syndicats vont venir répéter au gouvernement que ce serait inutile et injuste, tout en gardant à l'esprit que le recul de l'âge légal à 64 ou 65 ans semble déjà acté. On nous prend pour des idiots, peste l'un de leurs représentants. Épreuve que la riposte se prépare déjà, les centrales seront toutes réunies dès lundi, avant même la fin de la concertation, pour se mettre d'accord sur une séquence de mobilisation à la rentrée congrès quand la réforme sera présentée en Conseil des ministres. Janvier va être chaud, promet un responsable du syndicat des cadres qui prédit que le secteur privé se mobilisera aussi. Le patronat, toujours favorable à la réforme, craint une conjonction des mécontentements avec des Français toujours étouffés par l'inflation.
La grogne monte et cette grève surprise demain et tout ce week-end des contrôleurs de la SNCF. Attendez-vous un week-end noir, 60% des TGV et intercités supprimés, mobilisation pour les salaires qui pourraient se poursuivre à Noël et le jour de l'an. Les Français qui subissent l'inflation, je voulais vous montrer ce chiffre ce matin. La collecte de la banque alimentaire dans les supermarchés a baissé de 10% cette année. Les plus modestes n'ont tout simplement plus les moyens de donner, ça fait quand même 2 millions de repas en moins. Pour compenser, la collecte continue en ligne. On va prendre la direction maintenant des États-Unis. Emmanuel Macron, en visite d'État de 3 jours, défend les intérêts de l'Europe, des emplois européens plus précisément. Un coup de pression sans langue de bois. Il s'est exprimé hier devant la communauté française de Washington, le président de la République qui a critiqué les mesures protectionnistes américaines.
Les choix faits sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'il ne faut pas se tromper, il y a un risque aujourd'hui, et qu'on doit se dire entre amis. Ce risque, c'est que, face aux défis que j'évoque, les États-Unis d'Amérique regardent d'abord les États-Unis d'Amérique, ce qui est normal, nous faisons pareil avec nous, regardent ensuite sa rivalité avec la Chine, et en quelque sorte que l'Europe, et donc la France, deviennent une sorte de variable d'ajustement. Parce qu'il crée de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire, on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan.
Position qu'il faudra défendre ce soir devant Joe Biden. Un dîner est prévu à la Maison Blanche. Il est 7h06 sur RMC, direction le Qatar.
RMC, Coupe du Monde 2022.
On connaît le prochain adversaire de la France, la Pologne. Les Bleus qui joueront dimanche leur place en quart de finale après une défaite anecdotique et confuse contre la Tunisie. 1-0 hier, on y revient juste après. On va tout de suite s'intéresser aux Polonais qualifiés de justesse malgré leur défaite contre l'Argentine. 2-0 hier, la France par favorite, Florent Germain.
Oui, le prochain adversaire des Bleus fait profil bas. Les Polonais sont passés tout proches de l'élimination hier soir. Ils appréhendent donc ce huitième de finale contre la France avec beaucoup d'humilité, à l'image de leur sélectionneur, Czesław Michniewicz.
La France compte beaucoup de joueurs fantastiques, physiques, rapides, avec d'énormes qualités. J'aimerais voir une finale France-Brésil, bien sûr, mais avant, la France devra réussir à battre la Pologne.
Deux armes principales dans cette équipe polonaise, l'attaquant Robert Lewandowski, évidemment, ex-buteur en série du Bayern Munich, désormais au FC Barcelone, et Wojciech Szczęsny, l'immense gardien de la Juventus Turin, qui a stoppé hier un pénalty de Léo Messi. Szczęsny sait que le défi sera relevé contre l'équipe de France.
Ils sont largement favoris, c'est l'une des meilleures équipes du monde, mais on fera de notre mieux pour essayer de passer ce tour. La clé pour stopper Mbappé, moi-même.
Rendez-vous est pris, d'ailleurs Kylian Mbappé a déjà marqué contre Szczęsny cette saison, c'était en Ligue des Champions avec le PSG.
RMC en direct depuis Doha. Quel imbroglio, c'est le mot. La défaite des Bleus hier face à la Tunisie est en suspens. Loïc Braillet va tout nous expliquer. Bonjour Loïc, la France a déposé une réclamation auprès de la FIFA après l'annulation du but de Griezmann dans les toutes dernières secondes.
Bonjour, oui, effectivement, à cause d'une position de hors-jeu de Griezmann qui est en fait détectée au tout début de l'action qui amène son but. L'arbitre doit aller voir la VAR pour en avoir le cœur net, mais il laisse les Tunisiens effectuer la remise en jeu après ce but. 2 secondes après, il siffle la fin du match et c'est seulement ensuite qu'il va faire appel à l'assistance vidéo. Alors si le règlement permet effectivement d'aller voir la VAR après le coup de sifflet final, ce n'est en revanche pas possible s'il y a eu une remise en jeu. Entre-temps, ce qui a bien été le cas hier soir côté tunisien, il y a eu un petit échange du coup entre la France et la FIFA dans les minutes qui ont suivi la fin de cette rencontre. Et tard hier soir, la France a décidé de rédiger une réclamation pour a priori faire changer le résultat et donc faire valider ce but d'Antoine Griezmann. Cette défaite face à la Tunisie pourrait donc se transformer en match nul. Cela ne changerait absolument rien sur le fond et de toute façon, vu la prestation des Français hier, un match nul serait vraiment pas mérité.
Loïc Braillet, envoyé spécial RMC à Doha. Quelle situation inédite.
Il est sévère, Loïc, mais...
Il est sévère,
mais il a raison. Il a raison, oui. Ouais. Ça ne change rien au fond, hein. On resterait premier de la poule.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16. On va tout à l'heure revenir là-dessus, puis aussi se projeter sur les Polonais. Ce sera avec Eric Dimeco à 8h d'ici les 7h09.
RMC. RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie.
Bonjour Apolline.
Amélie, ce matin, vous venez en aide à Germaine.
Oui, Germaine, c'est une grand-mère comblée de 90 ans après une vie de labeur dans le restaurant qu'elle tenait avec son mari. Aujourd'hui, elle vit entourée de sa famille, surtout ses petits-enfants qui font son bonheur. Germaine est âgée, mais rien ne lui échappe. C'est elle qui, en début d'année, remarque une anomalie sur son compte en banque. Orange prélève deux fois son abonnement de ligne fixe. Pour l'aider, c'est son gendre François qui prend les choses en main. Il fait stopper les prélèvements, mais au total, l'opérateur a facturé près de 400 euros de trop à la vieille dame.
C'est une erreur qui n'a pas été prise en compte par Orange. Est-ce qu'il savait que c'était une dame âgée, 90 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, la situation, elle a perduré. Une erreur qu'on a laissé courir plutôt par négligence. Tout ce qui est injustice, c'est comme si je les ressentais moi-même. Hein. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que quand il y a une erreur comme ça, qu'on n'obtienne pas une réparation.
Et oui, sauf qu'Orange refuse de rembourser Germaine.
Et pourquoi ?
François a contacté le service client. La première fois, au mois de janvier, l'opérateur reconnaît le trop perçu et accorde le remboursement, mais rien ne se passe. Au deuxième coup de fil, Orange redit « oui, oui, on va rembourser ». Toujours rien. La troisième fois, l'opérateur rejette finalement la faute sur Germaine, qui n'aurait pas résilié la ligne de son ancien logement. Après un énième courrier recommandé et resté sans réponse, François, son gendre, a donc décidé de faire appel à nous.
Et donc, il n'a pas lâché l'affaire. Et Amélie, vous êtes allée à la rescousse de Germaine.
Oui, et quand on reprend un dossier à RMC s'engage pour vous, ça peut aller très vite, vous le savez. 24 heures en l'occurrence. Le lendemain de notre appel à Orange, un conseiller l'a contacté et a reconnu un dysfonctionnement. La totalité du trop perçu lui sera bien remboursée, soit près de 400 euros. Et ça représente un tiers de sa retraite mensuelle à Germaine. Un 1er décembre, ça tombe plutôt bien. Elle va pouvoir faire plaisir à ses petits-enfants à Noël. Et nous, on a voulu lui annoncer la nouvelle nous-mêmes en l'appelant hier. Écoutez.
Moi, je suis heureuse aujourd'hui. Je ne vais pas le dire tout de suite à mes petits-enfants. Je me réjouis pour Noël. Je vais pouvoir gagner mes petits-enfants. Rendez les gens heureux comme ça. C'est formidable. Je vous remercie beaucoup de tout mon cœur. À Noël, je penserai à vous.
Et nous aussi, on pensera à vous, Germaine, et on vous embrasse. On est ravis d'avoir pu vous aider.
Oui, je trouve ça même émouvant, en fait. Je me dis, voilà, c'est une belle histoire de Noël. On a envie de passer Noël avec Germaine et François, je trouve.
Et oui.
Hein, une petite salutation. Et puis, comme Germaine, comme François, vous n'hésitez pas à vous contacter Amélie et son équipe. C'est RMC pour vous à rmc.fr.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Eh bien, c'est assez rare, mais les médecins libéraux sont en grève aujourd'hui et demain. Ils demandent plus de moyens. Certains exigent même une consultation à 50 euros. Explication avec notre témoin du jour, le docteur Philippe Vermèche, qui nous dira aussi comment consulter en cas de besoin pendant ces deux jours si vraiment vous avez besoin.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14. Bon réveil à tous.
Le témoin RMC.
Le témoin RMC, c'est un docteur. Bonjour docteur.
Bonjour.
Philippe Vermèche, vous êtes président du syndicat des médecins libéraux. Enfin, vous êtes médecin habituellement, mais aujourd'hui vous ne consulterez pas. Vous faites grève, vous êtes rentré dans ce studio et vous m'avez demandé juste avant qu'on prenne l'antenne comment ça va. Je vous ai répondu, il vaut mieux que ça aille aujourd'hui parce que comment on fait aujourd'hui si on est malade ?
Ah. Aujourd'hui, si on est malade, on n'a pas trop le choix. C'est soit le 15, soit un numéro de régulation qui existe dans les départements, dans les villes où vous êtes et qui vous permet de vous aiguiller. Mais c'est vrai que ça sera un petit peu plus difficile que d'habitude.
Ça sera plus difficile aujourd'hui. Docteur, pourquoi est-ce que vous faites grève ?
Alors, il ne vous a pas échappé que les médecins ne sont pas des gens qui font grève toutes les 5 minutes.
C'est très rare et depuis 2015, ça ne vous était pas arrivé. Et encore en 2015, vous consultiez, c'était une grève de la paperasse.
Tout à fait. Donc, ça veut dire que quand même, aujourd'hui, la coupe est pleine. Si on voit que, vous savez que les déserts médicaux sont le sujet de préoccupation des Français et qu'on essaye par tous les moyens de le régler. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème de temps médical et un problème d'attractivité du métier. Les jeunes médecins qui sortent de leurs études ne sont pas enclins aujourd'hui, dans les conditions actuelles financières et de travail, à s'installer et donc préfèrent faire des remplacements et profiter aussi de leur vie de famille, ce qui n'est pas quelque chose de tout à fait irrégulier. Et donc, à partir de là, nous avons un problème de temps de travail et le
en fait, d'équilibre dans votre temps de travail.
Oui, aujourd'hui,
que vous consacrez vraiment aux patients.
Je rappelle que les seniors travaillaient 60 heures par semaine et qu'aujourd'hui, les générations 35 heures dont sont issus les jeunes, donc à raison, veulent travailler un petit peu moins et profiter un petit peu plus de leur vie de famille.
Donc la difficulté, c'est aussi la question du changement d'époque, du changement de mentalité.
C'est un problème sociétal, c'est un sujet sociétal aujourd'hui qui, à juste raison, s'empare, donc les jeunes s'en emparent.
Vous êtes en pleine négociation. Le patron de l'assurance maladie a expliqué qu'il était même prêt à revoir la convention qui détermine vos tarifs. Vous faites grève dans la négociation. C'est aussi pour vous donner plus de poids?
Alors, on fait grève, oui, mais surtout, c'est un ras-le-bol général, on voit bien, parce que même les biologistes, enfin, on a une façon de travailler, on est cadré par la caisse d'assurance maladie, et c'est vrai que chaque fois qu'on négocie des tarifs, c'est toujours des tarifs qui sont...
Vous demandez combien? 50 euros par consultation?
Alors, 50 euros, c'est la moyenne européenne, aujourd'hui. À 25 euros, on est les derniers, enfin, les avant-derniers en Europe. Donc c'est pas très raisonnable au vu des charges et surtout de l'inflation qui augmente aujourd'hui, parce que c'est un sujet supplémentaire d'angoisse pour les médecins. Donc lorsque le 50 euros, c'est une partie des négociations, c'est une partie des revendications. Il y a aussi...
C'est quoi le reste?
C'est la façon de travailler. C'est l'administratif. On nous demande des certificats, notamment on veut de la simplification. Les certificats qu'on nous demande de temps en temps pour faire du sport, de la pétanque, ça arrive par exemple, nous prennent beaucoup de temps. Et aussi, il y a une pression des patients qui, devant les déserts médicaux...
Oui, mais moi, ce qui m'étonne quand même, docteur, c'est que j'entends parfaitement ce que vous dites. Et honnêtement, c'est vrai que dans des journées déjà très remplies, quand vous devez en plus vous taper de faire des certificats à droite à gauche, mais enfin, quand on vous propose de vous délester de ces tâches en responsabilisant davantage, par exemple, les infirmiers ou les pharmaciens, en leur permettant à eux de pouvoir faire des ordonnances ou des certificats, vous dites, ah ben bah non, ça c'est à nous de le faire. On non, a l'impression que vous ne voulez pas partager la tâche.
Le problème, c'est que lorsque c'est négocié et lorsqu'on parle avec les autres professionnels de santé, on s'entend très bien. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, donc, on a une espèce de... on nous impose les choses quelque part en disant, voilà, on va donner des tâches aux infirmiers, qui ont monté en compétences...
Qui sont capables de le faire.
Oui, qui ont monté en compétences. Le seul problème, c'est que quelque part, il y a un diagnostic. Et aujourd'hui, on nous propose quand même que ces professionnels de santé fassent le diagnostic et orientent dans le système de soins. Voilà, donc, le médecin traitant, je vous le rappelle, qui est quand même le pilier du système français de soins, doit rester la pierre angulaire, le pivot.
Vous avez rendez-vous avec les autorités, avec le ministère?
Alors le ministère, on le voit régulièrement, hein, Madame Firmin-Lebaudo, je l'ai vu rien que deux fois hier. Le directeur de la caisse, nous avons des bilatérales qui sont engagées avec une séance de négociation plénière le 8 décembre. Donc nous discutons. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, dans les 5 ans, il y a un problème d'attractivité et les médecins sont fatigués, harassés et ne sont plus motivés quelque part. Lorsque vous avez une journée de 8h du matin à 20h de soir, voire 21h, eh ben, vous êtes pas enclin pour 25 euros à en faire plus. Voilà.
Attractivité, fatigue, donc, manque de motivation.
Aujourd'hui, moi, je prône un contrat gagnant-gagnant avec la caisse parce que le revenu des médecins aujourd'hui 25 euros. Nous avons des subventions qui viennent pour embaucher des assistants médicaux, des subventions qui s'appellent les ROSP, revenus.
Et vous proposez quoi? De remettre tout ça à plat et de
tout
faire
ça,
un paquet
c'est des systèmes très compliqués. Nous, ce qu'on demande, c'est 50 euros et avec ça, on s'occupe de tout.
Et vous vous occuperez de tout. Une dernière question avant que vous partiez de ce studio quand même. Docteur, vous prescrivez un peu moins de Doliprane ou est-ce que ça c'est une légende?
Le Doliprane c'est quand même le numéro 1 sur l'antalgique. Donc aujourd'hui on a des ruptures de stock, faut le savoir. Et c'est vrai qu'au passage, avec les boîtes qui coûtent 2 euros, les industriels sont peut-être pas enclins à venir les vendre.
Ils disent que c'est pas là-dessus qu'ils vont faire de l'argent, quoi.
Voilà, et donc ils sont pas motivés pour venir chez nous, alors que le même médicament coûte à l'étranger 4-5 fois plus cher. Donc c'est vrai que c'est un problème. Mais le Doliprane est une molécule beaucoup prescrite.
Docteur Philippe Vermenck, merci beaucoup d'être venu dans ce studio. Vous êtes le président du syndicat des médecins libéraux et vous êtes donc aujourd'hui en grève. Il est 7h20.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre le foot dans 20 minutes. Venez échanger avec Eric Dimeco avec une question: que vaut la Pologne, futur adversaire des Bleus en 8e de finale? Rendez-vous à 7h40. Je vous attends au 32-16. Et puis dans un instant, il y aura le calcul d'Emmanuel Le Chypre dans la bataille train contre voiture. Qui gagne, tiens, pour aller au travail? Et puis Arnaud Demange qui pirate le 32-16.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
Mais tout de suite, l'indiscret du service politique d'RMC avec Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Apolline.
C'est la NUPES qui a bien du mal à trouver une ligne commune sur les énergies renouvelables.
Oui, vous savez, NUPES, ça veut dire Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. On pourrait donc se dire que sur ce sujet-là, ils sont à peu près d'accord. En fait, dans l'hémicycle, la semaine prochaine, la NUPES ne fera pas front commun sur le projet de loi du gouvernement pour l'accélération des renouvelables. Les groupes de gauche se voient d'ailleurs aujourd'hui pour tenter de se coordonner. Parce que vous avez d'un côté, les communistes qui voteront très probablement contre, ils défendent le nucléaire. Et vous avez de l'autre les écologistes qui, eux, se réjouissent d'avoir obtenu des avancées, même des victoires sur la planification des projets éoliens ou solaires, sur la biodiversité. Un député vert estime même que les lignes rouges sont levées. Tout ce qui aurait amené à voter contre a été retiré, dit-il. Il reste des combats à mener dans l'hémicycle, mais on comprend qu'un vote pour est à portée de main. Des écologistes particulièrement soignés par le gouvernement qui a besoin au moins de leur abstention pour faire passer le texte.
Et les insoumis, eux, ils en pensent quoi ?
Ben, ils sont partagés. De l'intérieur, on nous raconte même, je cite, la guéguerre sur les positions de vote. En majorité, ils veulent voter contre. Ils refusent de faire un cadeau au gouvernement en s'abstenant. D'autres pointent un projet qui ne va pas assez loin. Mais quelques-uns hésitent. On serait les seuls à voter deux fois contre, s'interroge une élue, contre les renouvelables, puis contre le nucléaire dans l'autre loi qui va arriver. Comment le grand public peut-il comprendre ?
Et ce sera donc à suivre la semaine prochaine avec ce projet de loi sur les énergies renouvelables, Sébastien Krebs.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h24 sur RMC, c'est l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires, Emmanuel, pour aller de leur domicile à leur travail, les Français utilisent de plus en plus la voiture.
Eh oui. En moyenne, un actif français réalise un trajet de 20 km en 25 minutes pour se rendre à son travail. Eh bien, pour faire ce trajet, 3 actifs sur 4 utilisent leur voiture au quotidien. C'est ce que nous dit le dernier baromètre mobilité et entreprise Alphabet France. C'est un chiffre en légère hausse par rapport à 2019. Ils étaient alors 72%. Mais attention, les Français recourent davantage aussi aux solutions de mobilité douce individuelle. Et là, il faut les voir l'effet de la crise sanitaire, hein, évidemment, puisque l'utilisation du vélo, trottinette, vélo électrique est en hausse. Les grands perdants, ce sont les transports en commun avec 7% de fréquentation en moins sur 3 ans.
Est-ce que les Français pourraient prendre moins la voiture ?
Oui, alors je sais que c'est souvent ce que souhaiterait Géraldine qui dit « Oh là là, ils exagèrent, ils prennent trop la voiture ». Surtout au vu de cette statistique de l'INSEE, sur le papier, il y a 42% des personnes dont le lieu de travail est situé à moins de 1 km de leur domicile qui prennent leur voiture. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils font aussi d'autres choses en allant. Ils vont pas seulement travailler, ils déposent des enfants à l'école, ils ont besoin d'aller faire les courses, etc. Et c'est pour ça que 2 familles sur 3 disent qu'elles ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture pour aller travailler.
Et c'était donc le regard de l'économiste Emmanuel Le Chip dans un instant. Et ben c'est Arnaud Demange qui nous rejoint.
RMC, Apolline Matin.
Attention.
Je ne fais que pirater le
32-16. Attention, il est là, Arnaud Demange. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Qui fait réagir ce matin au standard, c'est la démission de Caroline Cailleux du gouvernement et l'ouverture d'une enquête de la Haute Autorité pour la Transparence qui la soupçonne d'avoir sous-estimé son patrimoine.
Oui, ça fait réagir notamment Simon de Morlaix.
Ça fait déjà réagir Manu. Ça, c'est bien, Emmanuel, il est parti là.
Et Simon de Morlaix traduit bien ce que tout le monde pense. Il nous a laissé au 32-16. Caroline qui ?
Alors, exactement.
C'est vrai qu'au gouvernement, Caroline Cailleux, elle était moins connue que certains autres. On peut même se demander ce qu'elle foutait là. C'est un peu comme Jordan Veretout chez les Bleus. Encore qu'hier, c'est toute l'équipe de France qui se demandait ce qu'elle foutait là. Vous l'avez vu là, le match entre la Tunisie et le FC Lorient, c'était bien. Donc la remplaçante de Caroline Cailleux, c'est Dominique Faure qui devient ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. On va appeler Dominique Faure. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Dominique Faure, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Oui, bonjour madame, c'est Arnaud Demange, chez RMC. Hello, you've reached the phone of Dominique Faure, Delegate Minister of the Interior Minister and the Overseas Territories Minister. Oui, bon, on n'a pas le temps, c'est gentil madame Faure. Caroline Cailleux aurait sous-évalué son patrimoine, ce qui fait dire à José, mais comment font les politiques pour toujours se planter sur ce qu'ils possèdent ? Moi, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, mais au 1er décembre, je peux vous dire très précisément que j'ai 13,52 € sur mon compte, une Ford Fiesta de 2003, une collection de canards en céramique estimée à 40 € par la dame du marché Opus, deux yaourts nature et basta. Et enfin, Walter de Bruxelles nous dit « Je comprends, Caroline Cailleux, dans ces milieux-là, ça fait vulgaire de parler d'argent. »
On demande combien ça vaut là ton immeuble à Iéna, et les riches y répondent toujours oh, trois fois rien. Et c'est ce qu'elle a dû mettre dans sa déclaration. C'est les riches, ils font ça. Et évidemment, ça n'est pas compatible avec le fait d'être ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Vous trouvez pas, Pauline?
Je suis bien d'accord.
Ça n'est pas compatible avec le fait d'être ministre délégué.
Non, bon, allez,
à tout à l'heure.
À tout à l'heure. 7h30 sur RMC et RMC Story. Bon réveil, très belle matinée à vous tous. Le journal, c'est Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. France-Pologne, voilà ce qui attend les Bleus dimanche après-midi en 8e de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus qui évitent l'Argentine. Les contrôleurs de trains en grève ce week-end à la SNCF. Ça commencera dès demain, seulement 2 trains sur 5. Et puis on sait ce matin ce qui a poussé un homme à entrer dans l'Elysée fin septembre en déjouant tous les contrôles de sécurité. Il voulait en fait demander du travail à Emmanuel Macron.
Et on connaît donc le programme de dimanche, France-Pologne en 8e de finale à la Coupe du Monde.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Ça veut dire qu'on évite l'Argentine. Et c'est pas plus mal. L'Argentine qui a gagné 2-0 contre la Pologne hier soir. Mais les supporters français sont partagés. Ce matin, ils auraient aimé cette affiche de rêve contre les Argentins. Mais ils sont plutôt confiants en se disant qu'ils vont tomber contre les Polonais. C'est ce que nous raconte Martin Bourdin au Qatar pour RMC.
Certains Français auraient certes préféré un autre adversaire pour l'ambiance surtout.
Ouais, j'aurais aimé une ambiance chaude, bouillante, mais là c'est plutôt équitable, on va dire, en termes de public. Et je pense que c'est plutôt bon pour nous.
Et surtout sportivement, tomber sur la Pologne est plutôt une bonne nouvelle.
C'est prenable sur le papier.
Il y a Lewandowski devant, tout peut se passer. Mais en tant que Français, on ne peut pas avoir peur de la Pologne.
La peur, justement, elle se situait plutôt hier soir dans le camp polonais.
Je ne suis pas vraiment confiant.
Le soulagement de Philippe après la qualification de son équipe a vite laissé place à un peu d'inquiétude.
Mon cœur veut y croire, mais ma tête me dit de faire attention. Vous avez de super attaquants comme Mbappé, ça va être dur.
L'un des rares Polonais à vraiment y croire hier soir, c'était Jacek.
Je suis très confiant, c'est du foot, on n'a peur de personne.
Tous les autres voulaient surtout retenir la qualification de la Pologne, comme si battre la France n'était pas forcément envisageable.
On est encore en vie, c'est un bonheur de se qualifier. Mais est-ce qu'on peut vraiment être confiant avant d'affronter le champion du monde? Je ne crois pas.
On espère un miracle.
Et pour l'obtenir, ce miracle, qu'ils y croient d'ailleurs ou non, ils promettent tous de pousser évidemment très fort derrière leur équipe dimanche.
Alors c'est une nouvelle compétition qui va commencer, ça c'est ce que disait dès hier Didier Deschamps après la défaite des remplaçants français assez décevant à 0 contre la Tunisie.
Les joueurs sont pas contents. On est 24. Les 24 ont gagné les deux premiers matchs et les 24 ont perdu le dernier match. Et j'aurai besoin des 24 pour celui qui nous attend dans 4 jours. Qu'on soit capable malgré tout de faire mieux que ce qu'on a fait, oui, ça leur servira. Pas atteindre tous les objectifs. Le premier, c'était le plus important, c'est d'être qualifié, d'être en huitième. J'ai pas négligé ce match-là, mais il devra nous servir pour dans 4 jours.
Voilà, les Bleus qui portent réclamation pour la fin de match grotesque hier, puisque si on s'en tient au règlement, le but égalisateur d'Antoine Griezmann à la dernière minute n'aurait pas dû être annulé, le recours à la VAR étant interdit après une remise en jeu. Je vous signale qu'aujourd'hui, des gros risques de passer à la trappe. La Belgique et la Croatie vont s'affronter à 16h et l'Allemagne, qui est dernière de son groupe, n'aura pas son destin en main. Ce sera à 20h contre le Costa Rica. Il est 7h34 sur RMC et c'est jour de grève chez les médecins libéraux à l'appel d'un collectif aujourd'hui, demain, pour une revalorisation des consultations. 50 euros veulent certains médecins, plus de la moitié des cabinets seront fermés. Demain et tout le week-end, ce sont les contrôleurs de train qui seront en grève. Ils demandent le même statut que les conducteurs, avec en toile de fond les questions de salaire. La SNCF prévient, il y aura seulement 40% des TGV et des intercités, 2 trains sur 5. Donc, les voyageurs à Paris-Montparnasse n'avaient pas vu venir cette grève. C'est ce que nous explique Lola Baye pour RMC.
Devant la billetterie, ambiance électrique.
Moi, j'ai déjà essayé avant de venir, dès que j'ai reçu le message.
L'agent de la SNCF s'attire les foudres des voyageurs aux billets annulés, gilets rouges sur les épaules. Il vient de leur annoncer qu'ils ne seront pas sûrs de retrouver un train pour ce week-end. De quoi agacer Marie.
On entend le monsieur tout à l'heure. Enfin, à la limite, c'est notre faute, c'est pas leur problème. Enfin, toutes les démarches, on doit les faire.
Nicole aussi a vu son train Paris-Marseille supprimé. La voilà prise au dépourvu.
Internet, je sais pas faire. J'ai passé l'âge. Faut que je vienne à Montparnasse. C'est compliqué. Et j'ai une heure de queue debout. Donc je trouve ça inadmissible.
Alors quelle solution? Pauline, elle a trouvé.
J'ai la chance d'avoir trouvé un retour en voiture.
Mais Tatiana hésite encore.
Je vais prendre un bus, je pense, mais bon, arriver à 3h du matin, c'est pas mon idéal non plus.
Côté syndicat, Fabien Villedieu, le délégué général de Sudrail, explique le malaise de ses contrôleurs qui vont se mettre en grève.
Des trains qui sont pas à l'heure, des trains qui sont arrêtés dans la pampa, la clim ne fonctionne plus. Et bien le contrôleur, il se retrouve à gérer tout ça.
tout seul en permanence.
Les contrôleurs comptent se mobiliser au-delà de ce week-end. D'autres préavis ont été déposés.
On entre dans le vif du sujet aujourd'hui avec la troisième salve de consultation sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Il sera question à partir d'aujourd'hui du financement du système des retraites et donc du report de l'âge légal de départ à 64 ou 65 ans. Le gouvernement nous prépare au scénario du pire, on en parle ce matin sur RMC, en anticipant des coupures de courant cet hiver en cas de grand froid pendant 2 heures, le matin ou le soir, on serait prévenu la veille. 60% du pays qui risque d'être touché, train à l'arrêt, les numéros de secours injoignables par endroit. La première ministre Elisabeth Borne va écrire aux préfets aujourd'hui pour leur dire de se préparer à ces délestages dans leur département. Une affaire qui pose la question de la sécurité à l'Élysée. Un jeune homme de 27 ans a réussi à s'introduire dans l'enceinte du palais. C'était fin septembre, arrêté sur le perron. Il a déjoué les contrôles. Il n'y aura pas de suite judiciaire. Mais on a donc des précisions ce matin. Rémi Inc pour RMC. Des précisions parce qu'il cherchait du travail. Il a donc traversé la rue pour voir le président.
Je me suis dit que ça serait encore mieux de venir postuler directement pour montrer mes qualités humaines. Voilà ce qu'explique cet homme de 27 ans, son CV à la main. Arrivé devant le palais, l'entrée principale est évidemment barricadée. « J'ai vu une autre porte », explique-t-il. Il y voit des personnes entrer et sortir librement en tenue civile. De là, j'ai suivi 2 personnes, tout simplement. Il croise le regard d'un gendarme, mais aucun contrôle, aucune demande. Alors il continue son avancée dans le plus grand des calmes pour arriver dans la cour d'honneur de la 7e puissance du monde. Un maître d'hôtel vérifie son identité, le fait patienter, puis des membres de la sécurité l'escortent, enfin hors du palais jusqu'au commissariat du 16e. « Je ne savais pas que c'était interdit, je me présentais vraiment de bonne foi », assure-t-il. Ajoutant, je m'excuse pour la gêne occasionnée. Depuis cette intrusion, le dispositif de contrôle aux entrées a été renforcé.
Emmanuel Macron, toujours aux États-Unis. Les couples Macron-Biden ont dîné dans un restaurant italien de Washington cette nuit. Un restaurant à 40 euros le plat de pâtes. Le gouvernement revient à la charge avec le contrôle des deux roues. Il devait être supprimé. Ça a été retoqué par le Conseil d'État pour des questions de sécurité et d'environnement. Mais finalement, le gouvernement prépare un contrôle technique allégé, moins contraignant, seulement visuel au départ. Écoutez ce qu'en pense Jean-Marc Bellotti des Motards en Colère.
Les motards, ils prennent soin de leur véhicule et surtout, la mortalité des deux roues motorisées, des usagers de deux roues motorisées a baissé de 19%, alors que le nombre de véhicules a augmenté de 30%. Donc nous sommes les bons élèves de la sécurité routière. Il n'y a donc aucune raison de mettre en place un contrôle technique pour la sécurité des usagers de roues motorisées.
L'ouverture aujourd'hui de la billetterie pour les Jeux Olympiques de 2024. L'ouverture de la billetterie aujourd'hui, première période d'inscription, ça va durer 2 mois avant un tirage au sort qui permettra d'acheter des places. Et puis le quintet.
Oui, le quintet, Quentin, c'est à Vincennes.
C'est ça. Vous voulez le faire, le quintet ? Ce matin, c'est à 13h50 sur RMC Découverte. Le 3, le 2, les pronostics de la Dream Team. Le 3 en favori, First Blood. Et le 2 en outsider, Toto Barroso.
Toto Barroso, c'était donc le journal de Quentin Vinet. Il est 7h38 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Éric Dimeco qui vient de s'installer dans le studio d'Apolline Matin. Bonjour Éric.
Bonjour Apolline.
Dans un instant, une question évidemment. Que vaut la Pologne, futur adversaire des Bleus en 8e de finale de la Coupe du Monde ? On en parle tous ensemble. Je vous attends au 32-16.
RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 sur RMC. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
RMC, Coupe du Monde de la FIFA 2022.
J'adore ce jingle, pardon, pour ceux qui regardaient à la télé, effectivement. J'ai fait un grand signe de danse. Je sais pas, je trouve qu'il est très porteur. Et il est porteur parce qu'il va falloir se faire porter un peu. Bah ouais, non, ça vous plaît pas?
Oh, ouais, le matin, c'est too much.
Éric Dimeco avec nous dans ce
grognon,
studio.
Grognon, Éric, ce matin.
Il est grognon.
Il
hein,
a regardé le même match que nous. Hein.
Voilà. Et ouais, le problème, c'est ça.
C'est ça. C'est un match qui nous a pas mis dans un état de joie extraordinaire.
Ouais, non, il faut souhaiter que Didier ait toute son équipe jusqu'au bout parce que les remplaçants n'ont pas marqué de points hier soir, même si je fais partie de ceux qui disent que souvent ça arrive quand tu changes trop de joueurs, que l'équipe tourne pas et que ça devient catastrophique. Un des joueurs d'hier soir, tu le mets dans l'équipe type, il fait un gros match. Fofana contre l'Autriche, dans l'équipe type, il avait fait un gros match et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été sélectionné. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit sur ce match-là.
Éric, est-ce que l'arbitre s'est trompé en refusant le but de Griezmann ?
Oui. Il a fait une faute technique même, ça s'appelle. Hein. C'est-à-dire que on entend bien pour ceux qui ont vu la fin du match, parce que certains ne l'ont pas vu.
Sur RMC comme ça on était tranquille.
Exactement. On entend le coup de sifflet de reprise du jeu après la validation du but et les 3 coups de sifflet de la fin du match. Et là malheureusement il peut plus revenir en arrière. Il aurait dû attendre pour faire reprendre le jeu. On aurait dû lui dire il y a un doute et puis voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et donc c'est pour ça que l'équipe de France s'est renseignée auprès de la FIFA. Pour pourquoi ça s'était passé comme ça. Les explications, d'après moi, ne leur ont pas convenu au président et à Didier. Ouais. Et donc, la France va porter réclamation.
Juste sur le plan sportif, ça change rien. Qu'on fasse sur le plan sportif, ça change rien. De la poule, la Tunisie est toujours éliminée.
Exactement. Voilà, il y a pas de décidance sur le. Voilà, il y a pas de décidance sur le classement. Il y a une défaite de moins pour Didier Deschamps avec sa sélection. Il y a un but de plus pour Griezmann. Voilà, c'est tout. Et certains parieurs qui peut-être vont couiner et peut-être qu'ils vont récupérer d'ailleurs leur mise si jamais.
Donc il y a encore la possibilité que ça soit.
Le résultat.
Ouais. Voilà, c'est ça. Mais alors moi, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis pour que l'équipe de France porte réclamation parce que ça fait faire jurisprudence, quoi. Imaginons ce match-là avait de l'enjeu, ou imaginons dans le futur proche, il y a ce genre de situation. Les arbitres sauront comment agir.
Éric, dimanche 16h, 8e de finale, les Bleus qui affrontent la Pologne. La Pologne qui s'est qualifiée de justesse. Hein. Franchement, moi, j'ai regardé aussi ce match-là. C'était pas flambant.
Apolline regarde la Pologne.
Ouais, Pologne Argentine. Enfin, je regardais. Honnête, mais fils et mon âme avaient allumé la télé sur le match et j'ai fini par le regarder aussi celui-là du coup. Mais il n'y a pas de crainte particulière à avoir.
Bah, la Pologne, on connaît les forces et surtout les faiblesses depuis le début de la compétition. Un grand gardien, un grand avant-centre et malheureusement un petit peu le néant autour avec une équipe hier soir qui avait décidé de défendre. Est-ce qu'il est possible de défendre une heure et demie sans prendre de but contre l'Argentine? Moi, je pense que c'était pas possible. La vitesse d'Mbappé, la touche technique de Griezmann, Dembélé et sa vivacité vont faire des dégâts dans cette défense-là.
Ça n'a pas coup du match piège où on galère jusqu'à la 70e, 80e, que... on est sur un 0-0.
Et alors, attention, l'équipe de France n'est jamais aussi forte que contre une équipe qui joue. Et là, la Pologne ne va pas jouer. Donc, on peut avoir des problèmes, notamment parce qu'ils vont reculer le bloc. On va pas rentrer dans les détails. Ça va être compliqué pour nos auditeurs.
On peut buter, en tout cas, sur une défense polonaise pendant une heure.
Exactement. Ça peut être un match comme ça, pas très plaisant. Mais l'équipe de France, ça a les armes. Je préfère rencontrer la Pologne, entre nous, soit dit, que l'Argentine.
Honnêtement, on est quand même gagnant. Stéphane est avec nous au 32-16, qui nous appelle du Calvados. Bonjour, Stéphane.
Ouais, bonjour.
Stéphane, vous avez regardé le match hier. Est-ce que ça vous fait craindre un peu pour dimanche?
Alors, j'ai pas regardé le match hier, je l'ai écouté, j'ai écouté Jeannot et c'est toujours un plaisir.
Très bien. Très bonne option, Stéphane.
Non, mais je voulais dire ça. Deuxième chose, oui, le match, je l'ai écouté, mais c'est surtout, moi, je voulais revenir c'est sur le fait que les joueurs qui ont remplacé, enfin, qu'ont débuté la partie hier, ont pas été, surtout au niveau de l'intensité, si j'ai bien entendu, ont pas été là. Et c'est là que c'est un petit peu dommage, parce que Didier Deschamps leur a fait confiance. Et
c'était un peu leur moment, quoi.
Bah oui, quand même un peu. Alors Eric, c'est des gars, ils sont pas joués à leur poste. Il le disait bien pendant le match hier, avec une Tunisie hier qui jouait sa qualification. Donc certes, ils n'ont jamais joué ensemble en plus, donc on peut comprendre qu'ils ne fassent pas un grand match. Mais au niveau de l'intensité, au moins, ils auraient peut-être mis un peu plus, ça aurait été pas plus mal. Surtout quand les remplaçants sont rentrés, on a vu que qu'il y avait un petit décalage quand même entre les titulaires et les remplaçants.
Là où tu as raison, Stéphane, c'est que y a des garçons qui ont peu de très peu de possibilités de se montrer en équipe de France. Il y a des garçons là, on les verra deux, trois fois, on les verra peut-être plus jamais. Donc quand tu as la chance de porter ce maillot-là, en plus en Coupe du Monde, le minimum syndical, c'est de mettre l'intensité. Moi, je suis toujours indulgent parce que j'ai connu tellement d'équipes bis qui galéraient, des joueurs qu'on disait mais ils ont pas le niveau, et puis quand ils jouent dans la grosse équipe, ils montrent qu'ils ont le niveau.
En fait, c'est exactement ce que vous dites quand vous dites mais si on se retrouve devant la Pologne qui joue pas, on sera forcément moins bon. En fait, c'est aussi qu'on est porté quand il y a un adversaire plus coriace.
Chaque match est une histoire et c'est pas si évident que ça, c'est clair. Mais à la vue du match hier, il vaut mieux pas que Théo Hernandez se blesse, par exemple.
Voilà, mais ce qui est pratique pour Didier Deschamps, c'est qu'il n'y a aucun remplaçant qui lui a mis le doute hier. Peut-être que lui, j'ai envie de le faire jouer contre la Pologne. Là, la hiérarchie est très claire.
Le but d'un joueur qui joue ces matchs-là, il doit se dire il faut que j'instille le doute dans le crâne du sélectionneur. Là, malheureusement, même Fofana, qu'on dit peut-être le quatrième du milieu de terrain qui pourrait venir donner un coup de main, a été catastrophique, voilà. Mais bon, je le répète, ne pas les enterrer de suite.
Si on gagne dimanche, la suite, c'est qu'on affrontera le vainqueur du match Angleterre-Sénégal en quart. À choisir, qui serait le mieux?
Bah non, mais là, on choisit plus, le match va choisir. Par contre, on sait, quoi qu'il arrive, que arriver en quart de finale, on tombe contre des grosses équipes qui sont promis au titre. Voilà, les Anglais, on les voit arriver depuis des mois et des mois avec cette jeune génération. Bon, ils ont un petit peu galéré en début de compétition, mais on se rend compte que quand certains garçons rentrent, les Foden, les Rashford, qu'on a vu lors du dernier match, c'est costaud. Enfin, un match France-Angleterre, c'est pas un match France-Sénégal aussi, parce qu'il y a une histoire, il y a une, un rapprochement entre les deux pays, donc ce sera quoi qu'il arrive, un quart de finale qui va faire parler.
Ouais. Et si on regarde un peu les joueurs, Pavard, déception quand même un peu, non?
Ben, Pavard, alors moi je suis mal placé pour en parler, je suis pas un grand fan, donc il est champion du monde, il est titulaire au Bayern, respect, mais en équipe
on
de France...
On va juste donner les infos,
Charles l'avait
joué le premier match, oui. C'était très moyen... Il n'a du coup pas joué le second, ça faisait partie des changements entre le premier et le deuxième match de Didier Deschamps. Et hier, Didier Deschamps a expliqué que Benjamin Pavard n'était pas dans les bonnes dispositions pour jouer, il n'était pas là. Il commence à y avoir un petit doute autour de Benjamin Pavard.
Oui, non, mais on a l'impression que Koundé est passé devant, qu'il va titulaire, et on a même l'impression qu'il est déclassé dans la hiérarchie, parce que c'était un taulier de Didier Deschamps, malgré tout. Il le fait beaucoup jouer.
Dans le langage de Didier Deschamps, si on peut décrypter, ça veut dire quoi? Dans des bonnes dispositions pour jouer, entre guillemets, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut comprendre?
Peut-être qu'il a des problèmes psychologiques personnels aussi. Hein, attention, c'est peut-être pas que lié au football.
Assez énigmatique, quoi.
Oui, non, mais c'est pour ça. Peut-être qu'il est pas en forme tout simplement et qu'il est pas en confiance. Ça arrive qu'on ait des passages à vide. Et le problème de Pavard, c'est qu'il a souvent été contesté en équipe de France. C'est un des joueurs les plus critiqués des titulaires champions du monde.
Il a souvent été là par défaut, en fait.
Voilà, parce qu'on n'a pas de latéral droit qui explose depuis des années. Didier n'a pas été capable d'en fabriquer un sur les 4 dernières années, et du coup, il est toujours là. Mais je dis, voilà, ce garçon, respect, champion du monde, titulaire au Bayern, ça veut dire que c'est un joueur de haut niveau. Mais là, il est en difficulté, c'est vrai.
Eric Dimeco, avec qui on suit évidemment toute cette Coupe du Monde.
Juste Eric, tout à l'heure. On a vu toutes les équipes au moins deux matchs, les favoris, les déceptions. Voilà, qui est-ce qui va, les Bleus, qui est favori?
C'est bien de faire le bilan, parce que du coup, l'Argentine, moi, je les trouve beaucoup moins favoris qu'en début de compétition, par rapport à ce qu'ils nous ont montré. Le Brésil, on se rend compte que sans Neymar, c'est fort, mais c'est pas le grand favori qu'on avait désigné. On se rend compte que l'Espagne progresse par rapport ils auront peut-être un plafond de verre par rapport notamment au réalisme offensif. C'est un problème un peu espagnol.
Donc France, Angleterre, Espagne,
qui, du coup.
Oui, voilà, le Portugal pareil, j'attends cette génération qui a beaucoup de beaux joueurs, peut monter en puissance et peut faire mal. Après, la Belgique déclassée, l'Allemagne peut-être qu'ils se qualifieront pas ce soir, les Pays-Bas que j'adore normalement, il y en a, je les reconnais pas, donc mais attention, la vérité des matchs de poule ne sont pas celles des matchs éliminatoires.
Et justement, à suivre sur RMC en intégralité, radio officielle de la Coupe du Monde, les matchs aujourd'hui, il y a Croatie-Belgique, Canada-Maroc, ça c'est à 16h, et puis à 20h, Costa Rica-Allemagne, et puis Japon-Espagne. Il est 7h50 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Les médecins généralistes sont en grève aujourd'hui et demain. Pourquoi? Les raisons derrière ce mouvement, les explications dans un instant avec Nicolas Poincaré.
Apolline Matin. Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Et on connaît l'identité du futur James Bond.
Eh oui, Daniel Craig a rendu son smoking et son permis de tuer après la sortie de Mourir peut attendre. La production était depuis à la recherche du nouveau James Bond. Et selon les tabloïds britanniques, le choix se serait porté sur Aaron Taylor Johnson, comédien britannique, 32 ans. On l'a vu dans Bullet Train avec Brad Pitt notamment. Il aurait fait un test en septembre dernier et la productrice aurait adoré. L'info n'est pas encore officielle, mais il aurait coché toutes les cases. Il fallait quelqu'un de charismatique, de jeune mais pas trop, de célèbre sans être superstar. Bref, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas eu le rôle, mais finalement a priori ce sera Aaron Taylor Johnson.
Je valide, je viens de googler là parce que j'avais pas. Je valide, il porte très bien le smoking.
My name's Bond. James Bond.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. Les médecins libéraux sont appelés à faire grève aujourd'hui et demain. Ils demandent une forte augmentation du prix des consultations. Les syndicats affirment que les médecins français sont parmi les moins bien payés d'Europe.
Oui, alors cette grève, c'est d'abord une première depuis plus de 12 ans. Les médecins de ville sont appelés donc à fermer leur cabinet aujourd'hui et demain. Et s'il le faut, à se lancer dans une grève plus longue après Noël, entre le 26 décembre et le 8 janvier. C'est un collectif qui est à l'origine du mouvement Médecins pour Demain, un groupe qui s'est formé sur Facebook et qui revendique 14 000 membres, des praticiens qui se veulent apolitique et hors des syndicats, même si les principaux syndicats de médecins se sont finalement associés à leur mouvement et annoncent qu'il sera très suivi. Beaucoup de médecins vont faire grève pour la première fois de leur vie. C'est ce qu'annonce par exemple Jérôme Marty, qui est à la fois grande gueule RMC et surtout président du syndicat des médecins libres.
Quelles sont les revendications?
Alors c'est tout simplement un doublement des tarifs des consultations qui passeraient de 25 à 50 euros. C'est ce que réclame ce groupe Médecins pour Demain. Les organisations syndicales sont un peu moins ambitieuses et moins précises. Elles savent qu'une augmentation de 100% a peu de chances d'être acceptée. Elles se contentent donc de demander une vraie revalorisation sans fixer le prix et en affirmant que les prix des consultations en France sont parmi les plus bas d'Europe.
Et est-ce que c'est vrai ça?
Alors 25 euros, c'est effectivement très en dessous de la moyenne européenne qui serait de 46 euros d'après les organisations professionnelles. La Belgique est au même tarif que nous, mais presque tous les autres pays européens sont au-dessus. Et ce n'est pas nouveau. Il y a 5 ans, lorsque la consultation est passée de 23 à 25 euros, un syndicat avait proposé aux médecins d'afficher dans leur cabinet les différents tarifs européens. 25 euros en France, 40 euros au Portugal, 70 euros en Suisse, 76 euros en Allemagne. Il n'y avait à l'époque qu'à Malte, dans le petit pays de Malte, que les consultations étaient moins chères qu'en France. Et si, mais il faut toutefois exclure des pays comme l'Espagne ou l'Angleterre qui ont des systèmes très particuliers avec des consultations qui sont tout simplement gratuites dans le public, mais très très chères dans le privé.
Est-ce que ça signifie que les médecins français sont parmi les moins bien payés d'Europe?
Alors justement, non. Parce que le prix de base des consultations, ce n'est pas du tout le seul indicateur des revenus des médecins. Il y a beaucoup d'autres critères à prendre en compte, et notamment le nombre d'heures travaillées. Les médecins français travaillent beaucoup plus que leurs confrères étrangers. L'étude la plus sérieuse sur ce sujet est une étude récente de l'OCDE. Elle conclut que la France, pour les revenus des médecins, se classe au 8e rang parmi les pays les plus riches, ce qui n'est pas formidable, mais ce qui n'est donc pas le dernier rang, comme l'affirment les syndicats de médecins. Mais il y a une autre façon de calculer qui est sans doute plus juste, c'est de comparer les revenus des médecins avec le salaire moyen du pays. Et là, les médecins français se classent à la 3e place parmi les pays de l'OCDE. Les généralistes français gagnent 3 fois le salaire moyen des Français. C'est moins que les Allemands qui gagnent 4,3 fois le salaire moyen, moins que les Anglais, mais beaucoup mieux que tous les autres, les Belges, les Canadiens ou les Néerlandais. Le revenu moyen d'un généraliste en début de carrière, une fois ses charges payées, est estimé à 4 297 euros et autour de 6 500 euros en fin de carrière. En fait, toujours selon l'OCDE, les médecins français les moins payés, comparés à leurs confrères européens, eh bien, ce sont les médecins hospitaliers, ceux qui ont la tête sous l'eau en ce moment dans les hôpitaux, par exemple les pédiatres qui viennent de lancer un appel désespéré à Emmanuel Macron. En réalité, on a bien deux crises très différentes en ce moment, mais qui s'additionnent, la crise de l'hôpital et celle de la médecine de ville.
Et c'était les explications de Nicolas Poincaré. Je précise, et c'est ce que nous disait le médecin tout à l'heure, que si vous avez besoin de consulter aujourd'hui, c'est évidemment aux urgences qu'il faut aller, ou alors appeler le 15, donc le SAMU. Il est 7h57, dans un instant on se retrouve pour la météo et le journal, et puis à la une du journal de 8h. Est-ce que vous serez concerné par ces coupures d'électricité éventuelles cet hiver? La réponse dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.